de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? On se retrouve encore avec moi, Tiwi, dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, je vais vous présenter un certain nombre de programmes, tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et bien sûr des chansons indonésiennes. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Mahfud MD a rencontré le ministre des Affaires intérieures de l'Australie pour discuter du terrorisme en Indonésie. L'Indonésie commence à gérer une partie de la région d'information du vol ou FIR à partir de Singapour en 2020. Le ministre de la Planification du Développement National apprécie la production nationale d'équipements de défense par PT Pindad. La certification halal pour aider les MPME à pénétrer le marché mondial a déclaré la Banque d'Indonésie à Java Est. 9 pays participent au championnat de danse de Lyon à Belitung. L'ouverture du festival de Waikambas 2019. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a participé au festival culinaire à l'aéroport de Kuala Lumpur. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Mahfud MD, le ministre coordinateur chargé de la politique, du droit et de la sécurité, a déclaré que les activités erronées concernant le djihad mené avec terreur devaient être surmontées ensemble. Selon lui, cette action est plus terrible maintenant parce qu'elle a touché des femmes et des enfants. Il a déclaré cela lors d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur de l'Australie, Peter Dutton. Ils se sont rencontrés bilatéralement pour se mettre d'accord sur des questions de collaboration. Ils ont discuté du programme commun de lutte contre le terrorisme comme mesure préventive et répressive. Dans sa déclaration écrite citée samedi 9 septembre, M. Mahfud MD a déclaré qu'en termes absolus, en 2018 et 2019, le nombre de terreurs en Indonésie a été réduit et anticipé avec assez succès. Mais qualitativement, il y a une expansion de sujets de l'auteur. Selon lui, les terroristes indonésiens ne sont plus seulement des hommes, mais également des femmes qui impliquent leurs enfants. Pour cette raison, le gouvernement indonésien et australien continueront de coopérer pour lutter contre le terrorisme. L'Indonésie commencera à gérer une partie de la région d'information de vol autour des îles de Riau et Natuna à partir de Singapour en 2020. Le haut fonctionnaire du ministère coordinateur de la Marine et de l'Investissement, Purbaya Yudi Sadewa, a déclaré récemment à Jakarta que l'Indonésie et Singapour s'étaient mis d'accord sur le cadre de négociations pour réalignement de la région d'information de vol couvrant le territoire indonésien et l'île de Riau, qui est encore gérée par Singapour et la Malaisie. Le cadre de négociation de la région d'information de vol a été signé le 12 septembre 2019 et a été suivi d'une réunion des équipes techniques des deux pays le 7 octobre 2019. Le ministre de la Planification et du Développement National, Suharto Monoarfa apprécie le développement de la production du système principal d'armement défensif ou alutsista dans le pays par PT Pindad qui continue de croître. Lors d'une visite de travail à PT Pindad Bandung récemment, Suharto a déclaré que l'Indonésie pouvait être fière de la capacité de Pindad, que l'année en année, il y a un processus incroyable. Selon le ministre, des équipements de défense comprenant également des véhicules tactiques ou rantis et des véhicules de combat ou ranpur sont devenus l'une des concentrations du gouvernement du président Joko Widodo au cours des 5 prochaines années. Le président Jokowi souhaitait que le matériel de défense utilisé par l'armée puisse être fabriqué dans le pays. Par conséquent, il a également encouragé PT Pindad à collaborer avec les acteurs de l'industrie des équipements de défense à l'étranger. Selon lui, la production d'équipements de défense doit continuer à augmenter, à la fois en termes de capacité de production et de qualité. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le représentant en chef de la Banque d'Indonésie AJFAS, Divi Ahmad Johansah, a déclaré que la certification halal pourrait aider les produits appartenant aux micro, petites et moyennes entreprises ou MPMO indonésiennes à pénétrer le marché mondial. Divi a déclaré samedi à Surabaya que l'Indonésie avait un grand potentiel pour devenir un acteur de l'industrie halal mondiale en augmentant le nombre de ses productions et sa certification halal. Ainsi, il ne s'agit pas uniquement de remplacer les importations, mais aussi d'encourager les exportations de produits halal indonésiens. Selon Divi, les produits halal indonésiens qui sont capables de pénétrer le marché mondial devrait également contribuer à contrôler le déficit du compte courant. La bonne stratégie est nécessaire pour que le MPME puisse dominer le marché international parce que la concurrence de l'industrie halal mondiale se durcit actuellement face à la concurrence d'autres pays. 9 pays ont participé au championnat de danse de Lyon qui s'est déroulé samedi dans la zone touristique de la place de Kelayang Belitung. Le tournoi a été organisé par l'Association de Lyon Barongsai de l'Indonésie et le gouvernement de la Régence de Belitung. L'un des objectifs est d'encourager le tourisme sur l'île de Belitung, qui est de plus en plus en demande. Parmi les pays qui ont envoyé leurs athlètes sont le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie comme l'autre. Ce championnat attire l'intérêt de nombreux spectateurs, entre autres la communauté locale et les supporters qui ont profité de sa présence à Belitung pour explorer diverses destinations touristiques. Ce championnat asiatique de danse de Lyon sur l'île de Belitung est le deuxième après le premier en Thaïlande. Le président de l'Association de Lyon Barongsai de l'Indonésie, M. Nurdin Purnomo, a déclaré que l'île de Belitung est très potentielle pour le développement du tourisme sportif. Le festival de Waikambas 2019 au Centre de conservation des éléphants du Parc national Waikambas a été ouvert samedi par le régent de Lampung, Zaiful Bukhari. Dans sa déclaration, Zaiful Bukhari a déclaré que le Parc national de Waikambas couvrait une superficie de 125 000 hectares, que ces forêts sont riches en flore et faune. Selon lui, le parc national de Waikambas est une destination touristique incroyable en raison de la richesse de sa flore et de sa faune. Le festival de Waikambas est l'événement de promotion du tourisme, des arts et de la culture dans sa région et une campagne de conservation qui devrait attirer les touristes dans la région de l'Est de Lampung. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a participé au Festival international de la gastronomie de la Malaisie qui s'est tenu à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Nurdin Syah, le chef de la sous-division des régions 4, à Régional 2 du ministère du Tourisme et de la création, a déclaré récemment que le Festival international de la gastronomie de Malaisie était une exposition culinaire organisée régulièrement en Malaisie est organisé par Malaysia Airport Holding Berhad et le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a deux stands qui sont utilisés au maximum pour la promotion du café indonésien. Nourdin Syah a déclaré que l'activité a eu lieu du 8 au 10 novembre 2019 dans un lieu très stratégique, à savoir à l'aéroport international de Kuala Lumpur. La participation de Wonderful Indonesia à ce festival pour promouvoir et maintenir l'existence du tourisme indonésien dans le monde, notamment dans la région de l'ASEAN. En outre, dans l'effort de poursuivre le programme gouvernemental visant à promouvoir Wonderful Indonesia sur des marchés potentiels tels que la Malaisie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voici la mise au point de la semaine d'aujourd'hui, dont le titre est « L'approvisionnement en biens et services du gouvernement doit faire bouger l'économie ». Au milieu des efforts du gouvernement pour améliorer le développement des infrastructures, une allocation budgétaire efficace est un défi auquel il faut faire face. Pour cela, on espère que l'agence gouvernementale chargée de la politique d'achat de biens et services, ou LKPP, pourra accélérer de manière proactive le processus de dépenses budgétaires afin de stimuler l'économie. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo dans son discours lors de la réunion de travail national sur les achats de 2019 à Jakarta mercredi dernier. Le président a rappelé que les achats de biens et services du gouvernement doivent être à l'heure. Un peu de retard pour réduire la portée du budget de dépenses de l'État ou budget de dépenses régionales. Jokowi a également souligné que les dépenses en achat de biens et services devaient contribuer de manière significative au développement de l'industrie nationale. En ce qui concerne l'amélioration économique, bien que le rôle du secteur privé reste très dominant, Jokowi a expliqué que le rôle du budget de l'État est toujours très important. Pour cela, l'achat de biens et services est un facteur important capable de stimuler la croissance économique au niveau national et régional, en particulier aux régions dans lesquelles la participation du secteur privé est minimale. Tandis que Ronnie Dwi Susanto, responsable de la politique des achats de biens et services, a expliqué que la réunion de travail national qui s'est tenue le 6 et 7 novembre 2019 était une activité annuelle destinée à présenter les activités, les réalisations et les résultats des travaux. La réunion de travail national à laquelle on assistait 4000 participants était également un moyen d'apprécier les acteurs de l'approvisionnement de biens et de services gouvernementaux. Ronnie a révélé que l'unité de travail sur l'approvisionnement en biens et services, ou abrégé en UKPBG, qui n'était auparavant qu'un appel d'offres, joue maintenant un rôle actif dans la planification stratégique. Il a déclaré que l'unité de travail sur l'approvisionnement en biens et services était transformée de l'exécutant de travaux administratifs à un outil permettant d'atteindre les objectifs de développement. Selon Ronnie, l'approvisionnement a plusieurs fonctions, notamment accroître l'utilisation des produits nationaux, renforcer le rôle de micro, petites et moyennes entreprises, renforcer le rôle des entreprises nationales, soutenir la mise en œuvre de la recherche et l'utilisation des produits, services de recherche. En outre, cela doit être capable d'accroître la participation des industries de la création, d'encourager l'égalité économique et de favoriser le développement durable. Voilà la mise au point de la semaine. Voice of Indonesia avec l'histoire d'aujourd'hui, le 10 novembre. On commence par le 10 novembre 1940, le tremblement de terre de Francéa. Le séisme de Francéa de 1940, également appelé tremblement de terre de Bucarest en 1940, s'est produit dimanche le 10 novembre 1940 en Roumanie à 13h39 locale, alors que la plupart des résidents étaient chez eux. Le séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de magnitude du moment est le plus puissant séisme enregistré au XXe siècle en Roumanie. Le séisme a détruit le centre et le sud de Moldavie et la Valachie. Le nombre de morts est estimé à 1000, alors que 4000 ont été blessés, principalement en Moldavie. Le 10 novembre 1945, la bataille de Surabaya. La bataille de Surabaya était une bataille de soldats indonésiens et de milices pro-indépendantistes contre les troupes britanniques et indiennes britanniques. L'apogée a eu lieu le 10 novembre 1945. Cette bataille était la première guerre des forces indonésiennes avec des troupes étrangères après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie. Cette bataille est devenue l'une des plus grandes et des plus lourdes de l'histoire de la Révolution nationale indonésienne, qui est devenue un symbole national de la résistance de l'Indonésie au colonialisme. Après cette bataille, le soutien du peuple indonésien et de la communauté internationale à la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie s'est renforcé. On célèbre le 10 novembre chaque année comme la journée des héros en Indonésie. Le 10 novembre 1975, l'Assemblée générale des Nations unies a publié la résolution 3379. En 1975, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 3379. Cette résolution stipule que le sionisme est une forme de racisme. Cette résolution a été adoptée par 72 voix pour, 35 voix contre et 32 abstentions. Parmi les 72 voix qui ont soutenu cette résolution, on comptait 20 pays arabes, 12 autres pays à majorité musulmane, y compris la Turquie qui reconnaissait Israël à l'époque, 12 pays communistes, 14 pays africains non musulmans et 14 autres pays, y compris le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Portugal. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
You are possessive. It's you are possessive.
Voilà la chanson de Potret, dont le titre est Possessif. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz. Chers auditeurs, pour vous, la rubrique suivante, voici mon Indonésie. Chers auditeurs, voici mon Indonésie, intitulée Le circuit MotoGP de Mandalika sera achevé dans les délais. Zainuddin Amali, ministre de la Jeunesse et des Sports, a assuré que la construction du circuit MotoGP de Mandalika à Lombok, Nusa Tenggara de l'Ouest, s'achèverait comme prévu à la fin de 2020. Cela a été révélé par Zainuddin lors d'une conférence de presse au bureau du ministère de la Jeunesse et des Sports, Jakarta, mardi dernier. Après une réunion avec la Société de Développement Touristique d'Indonésie, ou PT Persero Indonesia Tourism Development Corporation, ou abrégé en ITDC, en tant que développeur et gestionnaire des sociétés d'État de la zone touristique de Mandalika. Le ministre Zainuddin Amali a déclaré qu'il a interrogé sur la préparation de tenir le MotoGP 2021 en demandant l'engagement de l'ITDC pour la mise en œuvre du tournoi international de cours. Tandis que Abdulbar E. Mansour, en tant que président du conseil de l'ITDC, a déclaré que la construction du circuit est encore à l'étape de l'excavation de la route entamée depuis septembre dernier. Il n'a pas non plus nié que l'ITDC devait se battre contre le temps pour que la construction du circuit puisse être achevée à la fin de 2020. En ce qui concerne le programme officiel MotoGP de Mandalika, Abdulbar E. Mansour ne peut pas encore de fournir d'informations plus détaillées car Dorna Sport ne publiera son calendrier qu'en août 2020. De plus, si le circuit est achevé en 2020, on organisera une compétition d'essai pré-saison qui aura lieu en février ou mars 2021. Dans le même temps, Haj Zulkifli Mansyah, gouverneur de Nusa Tenggara de l'Ouest, a déclaré que l'objectif de 2020 serait comme un encouragement ou une motivation pour achever la construction du circuit et résoudre les problèmes qui préexistaient dans le processus de construction du circuit dans le village de Kuta, la région de Lombok Central. Auparavant, alors qu'il examinait et visitait le site de construction du circuit de Mandalika dans la zone économique spéciale de Mandalika, fin octobre dernier, le PDG de Dorna Sport SL, Carmelo Espeleta, s'était dit satisfait de la progression de la construction du circuit de Mandalika. Même il est optimiste que le circuit de Mandalika deviendra le plus beau circuit routier du monde. En plus d'être satisfait de la progression de la construction du circuit, qui s'étend sur 4,31 km et à 17 virages, le PDG de Dorna Sport, Carmelo Espeleta, est optimiste que la construction du circuit de Mandalika pourra être achevée dans le délai dont on organisera le MotoGP Mandalika en 2021.
Waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Kata-katamu riuh mengalir bagi gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka,
dibias lampu temaram.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson Débit, dont le titre est Coupou Coupou Cartas, qui signifie papillon en papier. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la ville de Surabaya, la province de Java de l'Est. Chers auditeurs, aujourd'hui, le 10 novembre, il y a 74 ans, il y a eu un événement héroïque au cours duquel la population de Surabaya s'est battue contre les troupes alliées et néerlandaises qui souhaitaient récoloniser l'Indonésie. La bataille, qui était la première guerre entre les forces indonésiennes et étrangères après la proclamation de l'indépendance indonésienne, a coûté la vie à de nombreuses personnes. Soit des combattants ou bien des civils. Pour cela, pour commémorer le patriotisme des combattants et de la population de Surabaya, le 10 novembre est désigné la journée des héros. Lors de cette journée des héros, nous vous invitons à visiter deux bâtiments, le Tugu Pahlawan ou le Monument Pahlawan et le Musée du 10 novembre qui ont été construits pour commémorer et honorer les héros morts lors de l'événement héroïque du 10 novembre. Nous allons d'abord visiter le Monument des héros. Ce monument est situé dans le centre de la ville de Surabaya, précisément sur la route de Pahlawan Surabaya, près du bureau du gouvernement de Java de l'Est. Le Monument des héros est l'un des symboles de Surabaya en tant que ville des héros. Ce monument se situe sur une superficie de 1,3 hectares avec une hauteur de 41,15 mètres et un diamètre de 3,1 mètres. Le monument des héros se présente sous la forme d'un clou inversé dont la ligne de fond est plus large que la ligne médiane du sommet du monument. Le cœur de ce monument se présente sous la forme de 10 arches ou canalures et divisé en 11 segments. Dans la zone du monument des héros se trouvent les statues de l'ancien président Insinyur Soekarno et de l'ancien vice-président Dr. Andes Muhammad Hatta, lors que la proclamation de l'indépendance parmi des hauts piliers ressemblant à des ruines d'un bâtiment. Il y a aussi sur ces piliers des écrits générant un esprit d'indépendance qui ressemble à un graffiti. Pour sauver des objets historiques liés à la lutte du peuple de Surabaya, on construisait un musée dans cette région en 1991 et le président Abdurrahman Wahid l'a inauguré en 2000, appelé le musée du 10 novembre. Ce musée se compose de 2 étages. L'architecture du bâtiment semble unique et ressemble à une pyramide. Au milieu de la pyramide se trouvent les statues de 3 jeunes hommes portant des lances en bambou. Lorsque vous entrez dans le musée, vous verrez un diorama. Sur le mur de l'entrée, plâtrez les noms des héros écrits en plaques de cuivre. Au rez-de-chaussée, vous verrez des photos de la bataille du 10 novembre à Surabaya. Il existe également un diorama de l'atmosphère du peuple Surabaya lors de l'écoute du discours héroïque de Bung Tomo. Au milieu de la pièce se trouve une statue de la bataille du peuple Surabaya. Au deuxième étage, vous verrez des dioramas statiques dans la pièce principale et des dioramas dynamiques dans les chambres. Dans la pièce principale, vous trouverez de nombreux objets personnels de Bung Tomo, tels qu'un poignard, un fusil de chasse, une radio et même une écriture manuscrite. D'autre part, il existe différents types de fusils à canon court et à canon long utilisés par les combattants. Dans une salle de diorama statique, vous verrez un diorama accompagné du son de la musique et de discours de lutte et de lumières colorées. L'atmosphère de diorama semble plus vivante. Après avoir regardé l'ensemble des collections du musée du 10 novembre, n'oubliez pas d'acheter des BBO du Monument des Héros ou Tugu Pahlawan et des objets d'art sur le thème de Surabaya. À la sortie du musée, il y a un endroit qui vend ces BBO.
Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Seperti alunan detak jantungku tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar atau cinta yang telah hilang. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi,
Voilà Peter Pan chantant la chanson intitulée « Ta ada yang abadi » ou en français « Rien n'est éternel ». Chers auditeurs, en plus de la fréquence de 3325 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Ensuite, écoutons les informations intéressantes de l'Indonésie dans la rubrique de l'Indonésie en couleur. Bonsoir à tous. Dans cette édition, je vous présente des informations sur la plage de Plangkoung, choisie comme site de la Ligue mondiale de surf. La plage de Jilin ou de Plangkoung est l'une des destinations touristiques maritimes à Banyuwangi, Java de l'Est. Récemment, la plage de Plangkoung a été choisie comme site de la troisième série de la Ligue mondiale de surf, ou en anglais World Surf League, ou abrégé en WSL. Cette activité se tiendra du 4 au 14 juin 2020. Banyuwangi sera l'un des hôtes de 11 séries de compétitions de surf l'année prochaine. C'est une fierté car le WSL est un championnat prestigieux comme le championnat du Grand Chelem en tennis. Le WSL Championship Tour est la plus prestigieuse ligue de surf du monde. Elle comprend 11 compétitions de surf qui commence habituellement d'avril à décembre chaque année sur diverses plages du monde. Cette année, cet événement prestigieux se tiendra en Australie, aux États-Unis, au Brésil, à Hawaï, à Tahiti, en Afrique du Sud, au Portugal et en France. Abdullah Azwar Anas, régent de Banyuwangi, a expliqué que de nombreux pays souhaitaient vivement devenir hôtesse. Il a dit qu'il était reconnaissant, Banyuwangi a été choisi par WSL. On peut utiliser cet événement comme un moment pour faire écho au tourisme de Banyuwangi, de Java de l'Est et de l'Indonésie. Selon Anas, cet événement a été classé dans la première ligue sportive préférée de la population mondiale après le football et le basketball. En fait, des discussions sur le WSL Championship Tour dans le cyberespace sont toujours en mesure de battre le MotoGP, qui n'est qu'au 9e classe. Le responsable de WSL Asia, Steven Robertson, a expliqué qu'on avait choisi Banyuwangi en raison de la tension considérable portée par le gouvernement local au développement du tourisme sportif. Steven a expliqué qu'on a choisi Jilin parce qu'il a de bonnes vagues et que son emplacement dans le parc national est magnifique. Selon lui, cette plage sera une histoire intéressante pour les surfeurs du monde. Ils vont surfer sur la plage au milieu d'une belle forêt. Cette type d'expérience sera une histoire positive parmi les surfeurs du monde. La plage de Plankong se trouve dans la région du parc national Alas Purwo. L'UNESCO a désigné cette forêt comme géoparc national et réserve mondiale de la biosphère. On connaît Jilin comme l'un des meilleurs sites de surf au monde en raison de ses vagues distinctives, larges et formant un tunnel. C'est l'Indonésie en couleur.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la dernière chanson intitulée Biarlah sendiri ou en français les seuls, chantée par Inda Nevertari. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci de rester fidèles à Voice of Indonesia. L'équipe de l'émission française de la Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et comme d'habitude, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Et dans cette édition, je vais vous présenter une chanson de Soundwave. Soundwave est composée de Rini et Jevin qui possèdent une expérience et une capacité extraordinaires. Rini était l'un des champions de Indonesian Idol 2007, tandis que Jevin était le champion indonésien de la Beatbox Competition 2009. Soundwave a publié au milieu de 2019 un nouveau chanson intitulé Inikah Cinta, ou en français, Est-il l'amour, qui a été popularisé par le groupe vocal ME en 1998. Cette chanson décrit un homme amoureux. Il avait envie de bonheur. Il veut toujours être avec la personne qu'il aime. Bon, avant d'écouter une chanson de Soundwave intitulée Inikah Cinta, ou en français Est-il l'amour, je vais saluer Madame Lupna et Idris Budina de 1130 Springdale Drive, Pittsburgh, PA 15236, les États-Unis. Je vous souhaite un excellent week-end. Et meilleures salutations à l'auditeur de France, Paul Jamais, Babé, Saint-Roux Poupard, 95290 Lille Adam. Voici votre email de novembre. Bonjour. J'ai enregistré la fille de votre émission de ce 1er novembre 2019, ci-joint le fichier audio obtenu avec le Kiwi SDR de Jakarta. Par contre, l'émetteur a été coupé avant la fin de la chanson. C'est vraiment dommage, non? Pourriez-vous me dire si vous avez confirmé ou non par carte QSL mes précédents rapports? De mon côté, je n'ai encore rien reçu. Et voici la réponse de votre email. Bonjour Paul, merci beaucoup pour votre fidélité et de nous avoir écrit sur ce que vous avez écouté de nos émissions. Par rapport à la chanson coupée, ça arrive quelquefois en raison de questions techniques, c'est vraiment dommage. Nous espérons qu'on ne la répète plus à l'avenir. En ce qui concerne de la carte QSL, nous attendons encore la nouvelle édition de carte. Nous vous envoyons bientôt dès qu'elle soit certainement prête. Je vous remercie infiniment. Nos meilleures salutations, l'équipe d'émission. Et aussi bonjour les amis en Algérie, Merlin Mourard à Nahmouchi Nouari de BP 154 Bicetif en 9000 Algérie, Lassa Somar du BP 530 Bureau de Poste Emir Aeka de 9008 Masquera Algérie, et Abdelkader Halil du BP 669 Ouarla, Algérie. Merci à tous qui ont écouté et écrit ou envoyé des rapports d'écoute. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci. Bon, chers auditeurs, la suite, écoutons une chanson intitulée Inikah Cinta ou en français Est-il l'amour, chantée par Soundwave. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia.
Raja berikutnya, suasana berbeda. Oh, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tetap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang kurasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa.
Untuk selamanya.
Chers auditeurs, c'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Au revoir.